Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Bonjour Annie.
Je vous rassure, Annie Gasnier n'a pas changé de voix. Je suis tout de même ravi de débuter une nouvelle semaine en votre compagnie dans Radio Foot. Un hommage à la une, hommage à Emmanuel Koundé, légende camerounaise qui nous a quitté en fin de semaine dernière, capitaine des Lions Indomptables. Plus de 120 sélections au compteur, buteur providentiel en finale de la CAN 1988. Emmanuel Koundé fut de toutes les grandes aventures au sein de la tanière dans les années 80 et 90, aux côtés notamment d'un certain Joseph-Antoine Bell qui lui sera en direct avec nous dans quelques minutes. Avec nous également Hervé Penaud. Bonjour Hervé.
Mais quel plaisir d'être en votre compagnie.
Annie, vous êtes en pleine forme.
Un peu barbu aujourd'hui.
Un peu barbu.
On va lancer le concours qui se cache derrière le générique Annie Gasnier ce lundi. J'imagine que vous êtes touché, Hervé, par la disparition d'Emmanuel Koundé, légende du football camerounais et africain en général.
Ah, absolument. Là, on parle d'un immense joueur du football. Et c'est ça, on parle du football camerounais, mais c'est du football africain qui a quand même dominé avec le canon de Yaoundé aussi. La Ligue des champions africaine, c'était un immense club, immense joueur, plus de 100 sélections. On va en parler de toute façon après.
On va rendre hommage à cette légende qui nous a quittés malheureusement. Au sommaire également de Radio Foot, la Coupe anglaise, le triomphe de Crystal Palace sonné à la barbe du grand favori de la finale, Manchester City. What a surprise, what a shock, monsieur Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Ah, c'est donc Hugo.
Ah, on va dire maintenant, j'ai la bronze.
Et voilà, vous avez spoilé.
What accent.
Je suis revenu les mains vides, j'avais une grosse info.
Enfin, vive la France d'en bas, le dénouement de la Ligue 1, c'est aussi cette magnifique Panenka du Guinéen Abdoulaye Touré pour sauver le Havre. L'un des gestes de la saison, et que dire de l'entrée en jeu de Steve Mandanda avec Rennes dans son ancien jardin, le Stade Vélodrome de Marseille. Même Eric Rabessandratana, le Parisien, a été obligé de verser sa larme. Bonjour Eric.
J'ai bien aimé, j'avoue. Bonjour Hugo, bonjour à tous. J'ai bien aimé le moment, voilà. C'était bien. C'était
ça pas vous a rappelé votre dernière
pas
au
du
parc
tout. Non, pas du tout. Mais non. Moi, je suis parti comme ça, sans adieu. Voilà, toujours connecté aujourd'hui, mais sans adieu.
On va appeler Nasser pour rattraper ce...
Il était pas là. C'était pas là à l'époque.
Ce mauvais traitement, mais qui effectivement date d'avant les Qatariens. Radio Foot, Pierre-Olivier Guérin à la préparation, Laurent Salerno à la réalisation. C'est parti.
Hugo Moissonnier.
Amis sportifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Depuis le stade Mohamed V, l'équipe du Nigeria, finaliste donc de la 7e Coupe d'Afrique des Nations, et l'équipe du Cameroun, composition de cette équipe du Cameroun. Dans les buts, Antoine Bell, 2, Kanabiyi Kandré, 4, Massing Benjamin, 6, Koundé Emmanuel, 8, Mbou Emile, 9, Mila Roger, 10, Mpédé Louis-Paul, 12, Makanaki Cyril, 14, Tatao Stéphane, 19, Olé Olé, 20, Mitamaf Charles.
Le coup d'envoi vient d'être donné.
Un seul but au cours de cette rencontre. Roger Mila, crocheté, vous allez le voir, dans la surface de réparation.
Et c'est Koundé qui va passer à la...
Pénalty indiscutable et pénalty transformé par Koundé.
Koundé Emmanuel.
1-0, score final. Les Lions Indomptables du Cameroun ont ramené la coupe à Yaoundé.
Un pénalty pour offrir une deuxième CAN au Cameroun en 1988. Il était également là pour la première, 4 ans plus tôt, mais aussi pour la finale, perdue cette fois contre l'Égypte en 1986. Plus de 120 caps avec le maillot des Lions Indomptables et même un brassard de capitaine porté fièrement à maintes reprises. Emmanuel Koundé, c'est aussi 2 Coupes du Monde disputées. Les premières, tout simplement, du Cameroun. Inoubliable, Lions Indomptables, quart de finaliste, le premier quart de finale de l'Afrique dans un mondial en 1990, en battant au passage l'Argentine d'un certain Diego Armando Maradona, tenante du titre. La liste des exploits d'Emmanuel Koundé n'est pas exhaustive, en tout cas celle que je viens de dérouler. Sa disparition à l'âge de 68 ans la semaine passée a évidemment touché tous les amoureux du football africain. Pour lui rendre hommage, un de ses anciens coéquipiers au sein de la tanière des Lions Indomptables est en ligne avec nous. Il est le consultant vedette de RFI. Il s'agit bien sûr de Joseph-Antoine Bell. Bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à tous, bonjour Hervé.
Bonjour Jo.
Ravi de vous retrouver, Joseph-Antoine Bell, même si j'imagine que vous êtes très personnellement touché par la disparition d'Emmanuel Koundé.
D'autant que rien ne laissait présager cette issue, en tout cas pas maintenant. Il n'y a pas longtemps, un autre ancien partenaire essayait de me convaincre d'aller jouer dans un village et il m'avait envoyé une vidéo dans laquelle Emmanuel Koundé disait que lui, il serait présent le 17 mai à Batchinga. Malheureusement, il n'y sera jamais, nous non plus d'ailleurs, personne n'y a été.
On va écouter une archive, Joseph-Antoine Bell, de RFI, Emmanuel Koundé, au début des années 90, au micro de l'ancienne voix et chef des sports de la Radio du Monde, Gérard Dreyfus.
Ce matin, je vous propose un dernier retour sur le match Angleterre-Cameroun avec le témoignage de celui qui a tenu une nouvelle fois un rôle essentiel au sein de la défense des Lions indomptables. Je veux parler d'Emmanuel Koundé.
Dans l'ensemble, on a livré un assez bon match malgré la rudesse du climat. C'était quand même un match important pour nous, un match de gala. Malgré le score, je pense que tout le monde est rentré satisfait.
Ce match vous faisait peur avant de le jouer ?
Ah ouais, surtout au niveau du climat, parce que là, j'avoue que jouer à moins 10 degrés quand on sort de 40, c'est pas facile. Et aussi la préparation, je pense qu'elle n'a pas été très, très, très sereine, parce qu'on a fait absolument 2 semaines de stage. Bon, je pense que là, on s'en tire à bon compte.
Après la Coupe du Monde, on pensait que c'était terminé pour Emmanuel Koundé, l'équipe nationale. Vous revoilà et on a encore aperçu du très bon Koundé.
Ouais, disons que là, je pense qu'il y a un malentendu. En ce qui concerne les matchs amicaux, c'est-à-dire les matchs de gala, là où l'équipe nationale peut être invitée, je continue à faire partie. Mais disons que pour les matchs de compétition, ma décision a été prise. Bon, on ne sait jamais, on peut toujours arriver à changer la décision de quelqu'un, mais pour le moment, je pense que j'ai pris la décision de ne plus jouer les matchs de compétition. Par contre, les matchs de gala, je continuerai à les jouer.
Wembley fait partie des 2 ou 3 stades dans le monde qui font rêver tous les joueurs. Est-ce que c'est impressionnant de jouer sur cette pelouse ?
Ah oui, disons qu'on sait que l'environnement dans le football britannique joue un très grand rôle et on s'en est aperçu. Je pense que pour tout footballeur, jouer à Wembley, à Maracana, je ne sais pas, peut-être à Munich, c'est vraiment l'aboutissement d'une carrière très très logique et là tout le monde aujourd'hui est content.
Est-ce qu'après ce match, on peut parler dans une certaine mesure d'une relance du football camerounais ?
Avec la qualité des joueurs, je pense que nous partons quand même favoris pour la qualification de la Coupe des Nations 92. Et le véritable problème des Camerounais maintenant, c'est de pouvoir réunir tous les joueurs au même moment. Vous savez qu'en Europe, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense que si au mois d'avril, on pouvait avoir toute notre équipe en place, il n'y aurait pas de problème quant à notre qualification.
Emmanuel Koundé, une archive de RFI au début des années 90, au sortir d'un match contre l'Angleterre, si j'ai bien compris. L'Angleterre qui, lors du mondial italien de 1990, avait brisé le rêve, avec notamment Gary Lineker, le rêve des Lions indomptables d'être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales du mondial. Joseph-Antoine Bell, entendre la voix d'Emmanuel Koundé, j'imagine que ça fait remonter beaucoup de choses. Le grand souvenir... Oui. Oui. Votre grand souvenir avec Emmanuel Koundé, ce serait quoi s'il fallait en choisir un ?
Bon, je ne serais pas capable d'en choisir un. Je vais juste dire que là, il dit jouer à moins 10. Non, il faisait moins 17 ce jour-là.
Donc c'était en Angleterre à Wembley, c'est ça ?
Ouais, c'était à Wembley, il faisait moins 17. Et comme il dit, je ne me souviens pas s'il y avait un autre partenaire en dehors. Oui, il y avait Thomas Nkono qui venait d'Espagne, mais moi, il n'y avait que moi. Les autres venaient effectivement du Cameroun et il faisait très, très, très froid. Je me rappelle de Chris Waddell qui se moquait un peu de nous parce que nos dirigeants avaient été surpris et qu'ils ont dû demander qu'on leur allonge quelque chose dans leur cachet parce qu'ils vont être obligés d'équiper les joueurs. C'était très amusant. C'est très amusant. Non, mais avec Benetti, comme il avait été surnommé au début de sa carrière, comme il aimait se faire appeler, les souvenirs sont nombreux. C'est quasiment... Ce que je peux dire de spécial, c'est que lui, il a eu de la chance en ce sens que nous autres, nous avons commencé l'équipe nationale derrière une défaite et derrière un cataclysme qui était l'échec à la CAN de 72.
À la maison.
Et donc, on se faisait insulter et tout ça. Et puis, vers 77, par là, d'abord les clubs ont commencé à gagner. Donc, Benetti est arrivé, il n'a pas trop connu les échecs, il a connu beaucoup de victoires. Il a gagné avec le Canon, pendant que Tonnerre et Union gagnaient aussi. Donc, il a vraiment connu la période faste et il était un maillon essentiel de ce groupe qui gagnait. C'est quelqu'un de particulier. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait l'air timide comme ça, mais il n'était pas timide, il était plutôt réservé et c'est son histoire personnelle. Que personne n'a jamais connu d'ailleurs, qui se retrouve résumé dans son nom. Koundé Ambassa signifie liberté, donc indépendance. Il est né en 1957, en pleine revendication de l'indépendance. Et donc ce nom-là, pour qu'on le lui ait donné, cela voudrait dire que dans sa famille, et je pense forcément à son père, quelqu'un était très engagé, et je soupçonne que le nom voulait dire que soit le père était mort pendant cette période et la mère n'a pu lui donner que ce nom-là, l'indépendance, la liberté. Et derrière, s'il a été réservé, c'est qu'il est né finalement dans une famille qui avait souffert et avec une mère qui ne parlait pas beaucoup et on ne parlait pas beaucoup. Donc, mais c'était quelqu'un de très, très bien efficace sur le terrain, efficace coéquipier, qui contribuait à tout, à la réflexion. Et aussi, il avait, ses 120 sélections le disent aussi un peu, c'était un joueur régulier. C'était le genre de joueur qui ne faisait pas d'éclat forcément dans le match, mais qui ne vous décevait jamais. Et milieu défensif qui était toujours, toujours présent, toujours égal à lui-même. On aurait pu tout simplement le surnommer Confiance.
Hervé Penaud.
Oui, et d'ailleurs, son surnom, c'était Niamorio, hein, en bêtise, c'est-à-dire l'ancien, le vénérable. Alors, j'en avais parlé avec Joe, qui m'a dit « Oh, moi, je ne l'appelais pas comme ça, évidemment, puisqu'il était plus ancien. Il était plus ancien que lui. » Il était resté sur Benetti, qui était un milieu de terrain du Milan AC, qui est international italien, etc. Important. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai eu Claude Leroy aussi, qui m'a parlé de lui, hein, puisqu'il l'a connu à l'époque, quand il arrive en 85, on lui a dit « Il y a deux joueurs, là, ils sont un peu vieux, il faudrait peut-être les mettre de côté. » C'était Roger Milla et Emmanuel Koundé. Alors, il dit « Roger Milla, j'ai joué contre lui, ça m'étonnerait. » Et il dit « Koundé, il ne le connaissait pas. Hein. » Donc, il a dit « Dès les premiers entraînements, je dis « Non, je crois que vous trompez les deux joueurs, à mon avis. » Et donc, et c'est devenu un homme de base, évidemment, de cette équipe du Cameroun, avec ce que dit Joe, un souvenir encore plus particulier, parce que comme c'était un gros tireur, un gros frappeur, il avait une grosse frappe de balle, donc il s'est un petit peu amusé avec Joe, en fin des entraînements, hein, si je ne m'abuse, à prendre quelques frappes de Koundé. Et comme Koundé, bien sûr, les gens qui frappent fort, parfois, ça ne va pas toujours dans la cible. Donc, c'était lieu de petites moqueries entre vous, non?
Il rigole toujours, Joseph-Antoine Bell.
Absolument, parce que évidemment, quand il les loupait vraiment. Donc, on a rigolé beaucoup. Et surtout, il avait un tic. Quand il les loupait, il se frappait dans les mains. Et donc, quand on voulait se moquer, on frappait dans les mains, on disait « Aïe, aïe ». Parce qu'il avait frappé à côté.
Non, c'est vraiment un personnage du football camerounais. Hein. C'est vraiment. Il faut se rendre compte. Alors, le problème aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que le football existe depuis que les réseaux sociaux existent. Mais à l'époque, il faut se rendre compte aussi qu'on a une période où le Cameroun a des grands clubs, et notamment, bien sûr, le Canon de Yaoundé, qui remporte la Coupe d'Afrique en 78, en 80, si je ne m'abuse. Il remporte la Coupe des Coupes en 79 aussi. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un grand club. Aujourd'hui, bien sûr, tout ça n'existe pas. Mais c'était des joueurs qui étaient au pays, qui était au pays.
Absolument.
Tout simplement. Qui, et donc il y avait une aura. Le canon Yaoundé pouvait amener 100 000 personnes. Vous vous rendez compte ce que c'est? Oui. On entassait. Et tout le monde venait voir les héros d'un temps, de l'époque. Quoi.
Alors justement, Joseph-Antoine Bell, Hervé Penaud parle de ce changement dans le football, la génération et le football camerounais, très différent du paysage actuel qu'incarnait votre équipe et Emmanuel Koundé en particulier. Est-ce que la jeune génération au Cameroun savait qui était Emmanuel Koundé, lui a rendu hommage comme il se devait? Quel a été votre regard un petit peu sur cette transmission?
Je crois que le phénomène des réseaux sociaux, comme dit Hervé, je ne sais pas comment il a fait. C'est vrai qu'Hervé est un peu africain, il va partout, il vient au Cameroun, même quand il ne m'appelle pas.
Tiens, comment ça?
Mais en réalité, les réseaux sociaux ont fait croire que le football a commencé il y a 3-4 ans, alors qu'il y avait d'immenses joueurs avant, avec de très grandes performances. Le Cameroun a été le premier pays à remporter les deux trophées continentaux la même année, avec Union de Douala, champion d'Afrique, et le Canon vainqueur de la Coupe en 79, et avec ce Koundé dedans. Koundé a été plusieurs fois champion du Cameroun, plusieurs fois champion d'Afrique, champion avec l'équipe nationale. À l'époque où on ne rêvait pas de gagner la Coupe du Monde, il a été en Coupe du Monde, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Il a été aux Jeux Olympiques, donc il a tout connu. Donc un type comme ça, vous ne pouvez pas faire croire que le football est né avec les réseaux sociaux. Ça existait avant, et il a contribué à mettre en place l'esprit de la gagne, l'esprit de gens qui ne s'avouent jamais vaincus. Et donc oui, c'est un immense joueur, et j'espère que ce que nous faisons là va contribuer à remettre un peu les idées en place à certains qui n'ont pas compris que le monde n'a pas commencé avec eux.
Les Jeux Olympiques de 1984, hein, c'est ça pour le Cameroun à Los Angeles, et puis effectivement l'Union Douala, championne d'Afrique en 79, avec, je crois, mais il est trop modeste pour le rappeler, un certain Joseph-Antoine Bell dans les buts. Donc effectivement, c'était une époque dorée pour le football camerounais à tous les étages, si je puis dire, et notamment au niveau local.
Et c'était pas des pros, il faut bien se rendre compte, c'était pas du professionnalisme comme on le connaît maintenant. Même Joe, il vient en Europe parce qu'il va finir ses études. Si je ne m'abuse, Joe.
Ça a coupé ?
Ah, on a un petit souci peut-être de connexion avec Joseph-Antoine Bell. Je vous propose, puisqu'on lui rend hommage ce lundi à travers la voix notamment de Joseph-Antoine Bell, je vous propose à présent d'écouter bien tout simplement les auditeurs de Radio Foot International, eux aussi, et même quand ils sont jeunes, ont de la mémoire et du respect pour la légende Emmanuel Koundé qui nous a quittés, le capitaine emblématique des Lions Indomptables années 80 et 90. Il nous a quittés en fin de semaine dernière.
Je m'appelle Abakar Kanika, je vous appelle depuis Tchad, dans ma capitale Ndjamena. Condoléances à M. Emmanuel Koundé. C'est une perte pour nous les Africains tous, et communément de nos frères du Cameroun.
Moi c'est Yannick Missibé, un centrafricain depuis Lomé au Togo. Vraiment, le football vient de perdre une légende qui nous a marqué en 1990 avec son pénalty devant l'Angleterre. Que son âme repose en paix.
C'est Ousmane Ba depuis Dakar, Sénégal. Emmanuel Koundé était un grand défenseur central. Il fut l'un des meilleurs à son époque. On l'avait connu grâce à son leadership. Il était un vrai meneur d'homme. Il était serein, appliqué dans le terrain. Franchement, Emmanuel Koundé est sans doute l'un des meilleurs défenseurs du football camerounais.
C'est Jamal depuis Libreville. Pour moi, c'est l'un des monuments du foot africain. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement le Cameroun qui est en deuil, c'est toute l'Afrique. Toute l'Afrique qui est en deuil, parce qu'il restera à jamais. Ils nous ont fait rêver dans les années 80 et 90 avec la génération Roger Mila et Makanaki et autres. On ne va jamais les oublier.
C'est Diallo Mamadou depuis Mbour au Sénégal. L'international camerounais Emmanuel Koundé, il a donné tout pour son pays. Il a fait le job.
Les auditeurs de RFI, de Radio Foot, qui s'expriment via les notes vocales WhatsApp, le numéro sur la page Facebook chaque lundi. Joseph-Antoine Bell, des hommages d'auditeurs de Radio Foot qui viennent des quatre coins de l'Afrique. Ça fait écho à ce que vous disiez juste avant la petite coupure. Ça doit vous rassurer et vous faire chaud au cœur.
Absolument, absolument. Quand j'entends ça, ça, effectivement, c'est à la mesure de ce qui a été fait, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a contribué à réaliser. Il a été un pilier d'une grande, grande nation de foot. Il a fait de grandes choses. Il était un joueur sur lequel on pouvait réellement compter. On savait que Koundé serait toujours là. Il serait, en fait, il ferait toujours du Koundé. On était certain d'avoir un joueur de qualité. Et il a été, que ce soit au canon ou en équipe nationale, il avait les mêmes performances quasiment tous les jours.
Merci d'avoir été avec nous pour honorer la mémoire d'Emmanuel Koundé, ancien joueur et légende. Et là, on ne parle pas au passé. Il sera toujours une légende, Emmanuel Koundé, du football camerounais. Merci beaucoup, Joseph-Antoine Bell, de nous avoir accordé ces quelques minutes en direct dans Radio Foot International sur RFI. On va revenir à l'actualité du football d'ici quelques instants après... Protégé Big 45, ça vient de Jamaïque, petite respiration musicale et on revient à l'actualité du football, direction la Première Ligue, Wembley, là où avait brillé le temps d'un match dans le froid, Emmanuel Koundé, on reviendra sur la finale de la Cup et puis la Ligue 1 et la Panenka de génie d'Abdoulaye Touré, le Guinéen du Havre pour sauver son club. It is a blessing for me see another day. Never lose your faith when trouble coming on your way. Reality created by your thoughts and what you say. Secrets in the spirits, the ancestors, them no play. No lenience for the grievance or no risky. No allegiance or obedience to the trickery. Them send legions from regions for the victory. But the heathens and demons no defeat me. Big sound string up, kick it off like whoa. In the arena, we know lie low. Sensi Miller is all I grow. Rastafari, no. Rastafari, no. I'm Big 45, boss it off right now. Man of his survive is a fight right throw. Never dim your light in a height Shiloh. Rastafari, no. Well, look ya, then watch a many gon' run and a many gon' flay. We stand up strong in a militancy. And we no look problem, but if you gon' bring it, better can solve them, I beg you don't blame me. Jah make him call and the mission it clear. Love above all, say no vision compare. Babylon falling when we no show fear here. Reggae come storming again, hey. I miss a big sound string up, kick it off like wow. In a the arena, we know lie low. Put sense in me, Larry is all I grow. Rastafari know when them, hey, hey. I miss a big 45, boss it off right now. Man if he survive, is a fight right throw. Never dim your light in a high Shiloh. Rastafari know when them, hey. You don't see, I say you don't know. But when it start reach you, away you gon' go. So circle and see, cause you're in control. That make we not ease up, no buckle or fall. Majesty reveal where we representing. A fee broke his seal with no residency. So whenever we reach in your residency, overstand the liberty is love we bring it all way. Big sound string up, kick it off like whoa. In a the arena, we know lie. Protégé, Big 45, ça vient de Jamaïque, c'est le choix, l'un des choix des programmateurs de RFI, c'est dans la playlist du mois que vous pouvez retrouver sur le site rfi.musique.
Oh, it's exactly the same as they arrive on the scene, the same as the semi-final, the same as at City. And with their first blow struck in anger, Crystal Palace take the lead.
Et voilà, ils l'ont fait.
Fini, c'est terminé. Crystal Palace remporte le premier trophée de son histoire face à City.
Crystal Palace, FA Cup winners 2025.
C'est énorme, énorme. C'est un descriptif du côté de Crystal Palace.
Plafond de verre brisé dans le palais de Crystal. Crystal Palace, vainqueur de sa première Cup et de tout simplement son premier grand titre national en Angleterre. On parle d'un club qui a attendu pas mal de temps, puisque fondée en 1861, la formation du Grand Londres a battu à la surprise générale ce samedi à Wembley en finale donc de la Coupe d'Angleterre, Manchester City. Le but rapide d'Hébert Echiesé sur un contre d'école a donné un avantage rapide, mais définitif quelque part à Crystal Palace. Bruno Constant, vous y attendiez à cette sensation, la victoire en Cup de Crystal Palace devant City?
Moi, je la voyais, oui, parce qu'on sait que City est convalescent et que cette équipe de Crystal Palace, même si elle est 12e de Premier League, elle fait une deuxième partie de saison absolument exceptionnelle. C'est une équipe qui n'avait pas gagné un seul de ses 8 premiers matchs de Premier League. Et à partir du moment où Mateta est revenu en forme, où Eze est revenu en forme, ils se sont complètement lancés et ils font une fin de saison en boulet de canon. Et c'est une équipe un peu allemande, comme on l'a dit, en Angleterre, avec Oliver Glasner, qui est autrichien, mais qui a travaillé en Bundesliga. Ouais. Et c'est un jeu très offensif, expansif, de transition. Là, ils ont tendu un piège à Manchester City, parfait, en jouant en compte dans le dos de la défense. Et le but, effectivement, est magnifique. Hein. Mateta impliqué, Munoz le piston droit, Eze qui est dans une forme étincelante en fin de saison. Et voilà, et c'est une histoire magnifique. Mais au-delà du club, c'est une histoire humaine de supporters, de supporters qui attendaient en vain un premier trophée. Et c'est le 45e club à inscrire son nom sur le trophée de la FA Cup. Et voilà, et la Coupe d'Angleterre, comme la Coupe de France, c'est ça en fait. Le symbole, c'est quand les petits battent les gros. Et c'est ce qu'on attendait depuis très, très longtemps dans cette Coupe d'Angleterre.
Bravo donc à Eze, le buteur, Munoz, le passeur décisif. Bravo aussi aux internationaux africains de cette équipe. Ismaïla Sarr, champion d'Afrique sénégalais, ou encore Cheikh Doucouré, le talentueux milieu de terrain malien. Et puis bravo au Frenchie, Jean-Philippe Mateta. Voilà.
Je suis aux anges, c'est fantastique ce qui nous arrive. Je ne sais pas quoi dire, je n'ai pas les mots. On affrontait une des meilleures équipes du monde et on a marqué très tôt. Et puis après, on a réussi à défendre ce but jusqu'à la fin. C'est un grand moment pour nous. Je remercie le staff et l'entraîneur pour le super boulot qu'ils ont fait. On a beaucoup bossé, mais on a bien respecté les consignes du coach. Quant à moi, j'essaie de donner le meilleur de moi-même lors de chaque rencontre. Parfois ça marche, parfois non, mais je me donne à 100%.
Most of the time, I try to give 100%. Jean-Philippe Mateta, auquel j'adresse mes plus plates excuses pour avoir hésité sur son prénom. Il faut dire qu'il a quitté le championnat de France après un semi-échec du côté de Lyon. Alors, il s'est rappelé à notre bon souvenir l'été dernier en France avec cette médaille d'argent. Il était en équipe de France et il avait postulé dans le studio, au micro de RFI pour... Pourquoi pas prendre la place d'un certain Olivier Giroud en équipe de France. Mais c'est un joueur qui fait un peu sa carrière, Eric Rabessandratana, un petit peu loin des radars, en tout cas de la Ligue 1, peut-être un peu sous-côté, à l'image de cette équipe de Palace samedi que moi, je n'avais pas vu venir.
Mais après, c'est vrai que les JO lui ont donné la lumière qu'il n'avait peut-être pas jusqu'à maintenant. Et puis, finalement, maintenant, on surveille un peu. Alors, je ne sais pas si on surveille assez pour savoir si il a vraiment sa place pour être essayé en équipe de France. Je ne suis pas sûr aujourd'hui parce qu'il y a trop de monde devant. Mais en tout cas, c'est un joueur performant qui est sérieux, c'est un besogneux, en fait. C'est un joueur qui est devant et qui est capable d'attirer un petit peu les défenseurs sur lui et de marquer des buts, évidemment, parce que c'est pas qu'un joueur comme ça besogneux. Mais non, moi j'aime bien le profil, et puis il calcule pas, quoi. Alors aujourd'hui, je me pose la question sur son physique, parce qu'il a eu un grave face à face avec un gardien qui l'a
sorte de carambolage.
Aujourd'hui, c'est un joueur masqué, il fait partie
aujourd'hui, il joue avec un masque, mais c'est assez impressionnant. Alors je sais pas si vraiment ça le protège, je suis pas sûr que ça protège assez pour. J'espère pour lui qu'il n'aura jamais d'autres histoires comme ça.
Et les Africains dont je parlais, Ismaïla Sarr, Cheikh Doucouré, ils ont fait une bonne saison. Ils sont capables de s'épanouir du côté de Crystal Palace.
Ismaïla Sarr, il fait une très bonne deuxième partie de saison. Ah oui, vraiment, il était assez impressionnant. Et d'ailleurs, moi, j'ai trouvé une énorme finale. Parce qu'en fait, il avait un rôle assez défensif. Hein. Il était là pour bloquer le côté gauche de Manchester City. Il est revenu, il a couru. Parce que comme il a un physique un peu hors norme, hein, il est capable de faire des sprints de manière permanente. Et moi, je l'ai trouvé très juste dans tout ce qu'il faisait. Et surtout, puisqu'en fait, l'équipe de Crystal Palace, le jeu, ça a été de planter un double bus, on va dire, entre guillemets. Hein, bah oui, et d'essayer de sortir vite. Mais c'est normal, après, on fait avec ses forces.
Face à Manchester City,
après, il rate un penalty, Manchester City, c'est comme
match,
ça. C'est absolument. Et lui, il a eu un rôle, je trouve, prépondérant sur ce côté gauche qui était le côté le plus dangereux. Parce qu'en finalement, vous aviez un Manchester City dont on a toujours vanté les vertus collectives, heureusement, hein, vu Guardiola. Mais sur ce match-là, il y avait finalement un seul danger, d'une certaine manière, c'était le jeu individuel de Doku, qui sur un coup peut-être aurait pu passer, aurait pu faire des différences. Et lui, il a été dans cette zone-là où il fallait doubler toujours sur Doku, doubler sur Doku, il y était.
Bruno Constant, je reste un petit peu sur nos Africains. Vous avez envie d'ajouter quelque chose ?
Non, mais Ismaïla Sarr, moi, j'ai halluciné en fait son niveau de jeu parce que je ne retrouvais pas le joueur qu'on a vu à l'Olympique de Marseille. Et je me dis que si l'OM avait eu ce joueur-là, il aurait fracassé en Ligue 1.
Mais avant l'OM, il s'épanouissait déjà dans le foot anglais.
Oui, mais à Watford, il s'était laissé un peu enterrer par la descente du club. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui est fait aussi pour la Première Ligue, qui avale les espaces, qui est effectivement physique, qui n'est pas avare d'efforts. Et dans le système surtout d'Oliver Glasner, avec ses deux attaquants qui sont en soutien de Jean-Philippe Mateta, il s'éclate. Il peut aller partout, il peut bouger. Et effectivement, il a une grosse débauche d'énergie.
Il y avait Liverpool qui était sur lui.
Oui.
Après, c'est vrai qu'il est parti à Marseille. Parce qu'en fait, lui, son problème, Ismaïla Sarr, c'est quelqu'un qui a besoin d'être très entouré. Il a besoin qu'on lui montre de l'amour. Il y a des joueurs comme ça qui ont plus besoin de ça. Et peut-être qu'à Marseille, on n'a pas su exactement comment le gérer. Parce que quand il est moins bien dans sa tête, évidemment, vous pouvez vous retrouver avec des matchs, vous êtes un peu surpris du niveau. Mais c'était un peu pareil pour Illiman Ndiaye, qui a fait une super fin de saison.
Qui est exceptionnel avec Everton.
Et qui met encore deux buts. Et c'est lui qui clôt quand même Goodison Park, avec deux buts, un doublé. C'est des joueurs, parfois, il y a des joueurs, il faut savoir les entourer, savoir les gérer. Et bah, ils ont peut-être trouvé les entraîneurs qui leur correspondaient.
Un dernier mot sur une individualité de cette équipe de Crystal Palace. Vous savez, on parle souvent de l'heure universelle, le temps universel. On vous le donne souvent sur RFI. C'est basé sur le méridien de Greenwich, du côté de Londres. Et c'est la ville natale, Greenwich, eh bien, du buteur de cette finale de la Cup, Eberechi Eze, né de parents nigérians et dont vous disiez beaucoup de bien il y a quelques instants, Bruno Constant, joueur international anglais.
Oui, malheureusement.
Oui, qui a été le tournant, de sa saison d'ailleurs, parce que c'est à partir du moment où il a marqué son premier but avec l'équipe d'Angleterre en début de saison, qu'il a lancé sa saison, il récupérait un peu les clés de l'équipe après le départ de Michael Olise, parce que c'est une équipe qui a perdu des joueurs importants l'été dernier, dont Michael Olise qui était son meilleur joueur.
Et Jordan Ayew.
Là, il n'a pas dit meilleur joueur, mais bon.
Eze en train d'exploser littéralement. Il fait une fin de saison tonitruante et c'est vraiment un super joueur et qui a fait son trou effectivement en sélection en équipe d'Angleterre.
Allez, on va féliciter et les laisser un petit peu tranquilles, ces joueurs de Crystal Palace. On les surnomme comment ?
Les Eagles.
Les Eagles, les aigles de Crystal Palace. Et on va...
Ils ont bien volé en tout cas. Mais ils n'ont pas volé leur victoire.
Non, ils n'ont pas volé leur victoire face aux Sky Blue Citizens de Manchester City, dont on a l'impression que la saison ne pouvait vraiment être... Ouais. Pire, désormais, il reste un impératif, valider la qualification pour la Ligue des Champions. City, pour l'instant, 6e, avec un match en moins. En tout cas, le match de la 37e avant-dernière journée de Première Ligue, il faudra le disputer demain soir contre Bournemouth. Il y aura Fulham dimanche prochain pour le dénouement de la Première Ligue. Objectif, Ligue des Champions dans la bouche de Pep Guardiola.
La Ligue des Champions, bien sûr que c'est important. On la dispute depuis 13, 14 ou 15 ans, je ne sais plus exactement. Évidemment qu'on veut en être la saison prochaine. Après, si on n'y participe pas, c'est qu'on ne le mérite pas. Et on jouera la Ligue Europa, c'est comme ça. Et moi, je pense qu'on va se qualifier, c'est ce que je ressens. D'accord, on a besoin de 2 victoires, au moins 4 points pour finir dans les équipes qualifiées et même finir 3e, mais c'est mon objectif.
L'objectif de Pep Guardiola, qui va encore avoir quelques griffures à se faire sur son crâne dégarni. On a envie que la saison se termine pour lui, tellement elle a été éprouvante. Mais là, il y a encore quelque chose à assurer. La Ligue des Champions, ça paraît dingue de parler comme ça de la saison de Manchester City.
Là, on est en train de se poser des questions de savoir s'ils vont être capables de faire la performance de se qualifier en Ligue des Champions, alors que
c'était plus qu'automatique.
Alors que c'était même pas une question, en fait. Il n'y avait pas de question, en fait, quelque part pour
City. Alors que c'est l'année où l'Angleterre va avoir 5 clubs qualifiés. C'est ça. En Ligue des Champions via le championnat.
Donc ça veut dire que vraiment ils sont en grande difficulté. T'as envie de, tu te poses des questions à savoir comment cette transition, comment c'est possible d'arriver aussi loin de ce que tu faisais il y a très peu de temps. Et en tout cas, on leur souhaite que ce soit juste un épisode d'un an et que après ça reparte, parce que franchement, si ça dure, je vois pas comment Guardiola il peut rester à City. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème quelque part, soit d'adhésion des joueurs avec Guardiola, ou soit avec les joueurs aussi, du fait qu'on est arrivé à une fin de cycle et que tu as besoin de renouveler.
Hervé Penaud, vous avez l'impression que cette finale en Cup, c'est un nouveau signal d'alarme par rapport À la manière dont Pep Guardiola aurait ou pas perdu le fil du côté de Manchester.
Oh, mais de toute façon, on sait qu'il a perdu le fil et que ses joueurs ont perdu le fil, parce qu'il n'y a pas que lui. Hein.
C'est-à-dire oui,
c'est un effectif à bout de souffle, mais il a compris il y a 2 ans, il l'a dit, hein, je crois plus ou moins, hein, dans une interview. C'est qu'il y a 2 ans, s'il avait fallu changer des joueurs, il aurait peut-être dû le faire. Ils ont voulu plus les récompenser, ça fait partie aussi, parce que c'est des êtres humains, hein, que vous avez en face de vous. Si vous avez des bonnes relations, c'est pas aussi simple que ça, parce que bien sûr, après coup, qu'on est de l'extérieur, il suffisait d'eux.
Garder la tête et, comme ça, concentrer sur les.
Exactement. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau City qui va arriver. La seule chose qu'ils ont à faire aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, c'est conserver cette place en Ligue des Champions. Ah ouais. Parce que là, s'ils ne l'ont pas, là, c'est un énorme coup dur. Et au moins, on aura un favori pour la Ligue Europa.
Mais Bruno Constant, est-ce qu'il n'y a pas... on a acté que la saison, elle ne serait pas extraordinaire du côté de City. Ah oui. J'ai l'impression qu'on a déjà pris un peu un tournant pour préparer la suite, pour un peu renouveler cet effectif, avec notamment le départ, évidemment, de De Bruyne, qui marque vraiment un tournant, la fin d'un chapitre.
Ouais, et puis il y en a d'autres qui vont suivre, parce qu'effectivement, il faut rajeunir l'effectif. Après, juste sur le match-là, on peut dire aussi que les événements n'allaient pas dans leur sens parce qu'il y a un carton rouge qui doit être donné au gardien de Crystal Palace.
Ça, c'est incroyable.
Il n'est pas donné.
Avec une main en dehors
de la surface, alors qu'Haaland allait le dribbler puis marquer. Il y a un pénalty qui est raté par Marmouche, que n'a pas voulu tirer Haaland. Alors, ça posait beaucoup de questions. Pourquoi Haaland, star de l'équipe, n'a pas tiré son pénalty? Parce qu'il en avait raté 3 sur les 7 qu'il a tiré.
C'est un peu à l'image de la saison. Ça déraille.
Les planètes ne sont pas alignées. Et en plus de ça, y a des contre-performances, des méformes, des blessures. C'est une saison à oublier. Mais c'est une saison qu'a vécu Liverpool avec Klopp. C'est une saison qu'a vécu Alex Ferguson avec United auparavant. Les équipes qui surdominent comme ça leur championnat, qui ont raflé une somme astronomique de trophées.
Donc,
sur l'Angleterre,
pour répondre à la question que posait en creux Eric, il n'y a pas forcément fin de cycle Guardiola.
Il y a fin de cycle d'un groupe. On va attendre un petit peu avant de parler de la fin de cycle.
De toute façon, il a re-signé.
C'est une saison.
Non, mais fin de cycle à City, je parlais. Je ne parle pas d'arriver lui au bout de son. Non, je parle avec cette équipe-là.
Avec la génération de Bruyne, Silva.
Mais même Silva est parti depuis quelques années, mais John Stones, défenseur.
Je parle de Bernardo.
Bernardo Silva, Gundogan, John Stones, Kevin De Bruyne, tout ça. Effectivement.
Et Grealish, il va falloir se poser des questions. C'est pas ce qu'il est devenu.
Qui n'est même pas rentré sur la finale.
C'est même pas ce qu'il est devenu.
Phil Foden également, qui est un
peu. Phil Foden, qui n'est pas du tout joueur.
Perdition qui n'a pas été bon cette saison, donc les joueurs sont responsables aussi.
En attendant le dénouement de la Première Ligue, je vous l'ai dit, c'est dimanche prochain et on y reviendra, je pense, très fortement dès lundi dans Radio Foot International.
Le centre, tout le monde est monté, Gauthier Loris lui aussi, il s'effondre dans la surface de réparation, penalty. Oh, cette Ligue 1 est folle, c'est complètement dingue. Duel qui peut changer l'histoire, qui va changer la saison. Touré, Petrovic, Touré. L'histoire est folle. Le Havre est maintenu. La Panenka d'Abdoulaye Touré qui vient de marquer.
Oui, j'étais serein, j'ai posé le ballon, je me suis dit que j'allais la tenter. Et au pire, je me suis dit si je la rate, on va au barrage. Finalement, c'est passé, c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour le club, pour les supporters aussi, parce qu'ils sont venus en nombre. Et tout le monde est récompensé aujourd'hui.
Une dernière journée inoubliable et une nouvelle page de l'histoire à Brest qui s'écrit.
Le Havre qui résiste à l'attraction de la Ligue 2 sur la musique d'Elvis Costello et des Attractions. Justement, le geste du samedi soir en France est peut-être l'un des gestes de la saison. La lutte pour le maintien en Ligue 1, c'était l'un des grands enjeux de la dernière journée. Et le capitaine guinéen du Havre, Abdoulaye Touré, n'a pas tremblé au moment de transformer le pénalty de la délivrance sur le terrain de Strasbourg. Une Panenka en toute fin de partie. Quel geste ?
Exceptionnel. Non, franchement, ce qu'il a réussi là... Alors, il fallait pas le rater. Mais il a eu ce mot à la fin du match qui est assez drôle parce qu'il a dit, mais de toute façon, même si je l'avais raté, on allait en barrage.
Oui, c'est ce qu'on vient d'entendre. Hallucinant.
Donc, ça veut dire qu'il avait une sorte de certitude, quelque chose en lui qui lui fait dire, de toute façon, on sera en Ligue 1 l'année prochaine. Et ce qui est incroyable, il en est quand même à 8 pénaltys et donc en gros 9. Parce que je crois qu'il y a un des pénaltys.
Et là,
qui
c'était un
poussé,
doublé quand même pour sauver son club samedi.
Ah, mais ce qu'il a fait là, chapeau. De toute façon, si Le Havre garde sa place en Ligue 1, lui doit aussi. Ouais.
Vous imaginez, en tant qu'ancien joueur, Eric Rabessandratana, tenter un geste aussi fou quand vous avez le destin Parce qu'une relégation, ce n'est pas simplement le problème d'une équipe, c'est le problème de tout un club en tant qu'entreprise.
C'est ça. Là, tu engages vraiment la totalité du club, le travail de toute une saison, où finalement, tu te dis... Donc franchement, il a des nerfs d'acier. Quelque part, tu te dis... C'était son deuxième pénalty dans le match. Ça veut dire que c'est très, très dur. Moi, j'ai déjà vécu le coup. J'avais raté le deuxième, justement. C'était très dur. C'est très dur de tirer un deuxième pénalty une fois que tu en as marqué un. Et en fait, c'est presque logique qu'il ait fait la Panenka, parce que quelque part, le gardien, tu sais que le gardien, soit il anticipe sur le même côté que tu as tiré, soit il va de l'autre côté.
Et en fait, c'est ça.
Tu te dis, peut-être que voilà, l'option de c'est tellement important, ce moment est tellement important que ce choix-là est plutôt très intelligent dans sa façon de penser, en tout cas.
Le Havre reste à bon port, doyen sauvé des eaux de la relégation, contrairement à deux autres clubs historiques de Ligue 1, à commencer par Reims, finaliste de la Coupe de France à venir, mais également barragiste face à Metz pour sauver sa place dans l'élite. Et oui, la défaite face à Lille a condamné les joueurs de Samba Diawara à un marathon déconcertant de matchs contre Metz, avec au milieu une Coupe de France à éventuellement glaner face au Paris Saint-Germain. Samba Diawara.
C'est un scénario catastrophe, mais c'est un scénario qui était possible à partir du moment où on n'a pas su prendre le point qu'il nous fallait. Ben voilà, nos adversaires directs ont fait le travail, nous on ne l'a pas fait et on se retrouve dans une situation qu'on mérite finalement. Malgré tout, à quelques minutes de la fin, on était à un partout. Malheureusement, une nouvelle erreur nous a pénalisés. C'est à l'image de la saison. Moi, elle passe au second plan. C'est malheureux à dire, mais on a un match déjà à disputer mercredi. On devra, quoi qu'il en soit, parce que c'est une question de survie du club, faire pour rester en Ligue 1. Les joueurs n'ont pas le choix. On n'a pas le choix au niveau du staff que de les aider, les accompagner. Et tout le club va devoir se mobiliser pour faire en sorte qu'on puisse rester en Ligue 1.
L'entraîneur malien de Reims, Samba Diawara. Bruno Constant, vous n'êtes pas rémois, mais vous n'êtes pas né très loin. Est-ce que ça vous rendrait triste de voir Reims descendre ?
Je vais être désolé pour les supporters, mais non. Non, parce que le stade de Reims cette saison,
je vois Olivier Pron qui rentre dans le bureau. Ah,
je ne sais pas
qu'est-ce
pourquoi.
Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ?
Olivier, calme-toi.
Calme-toi, Olivier.
Mais parce que cette saison, le stade de Reims, il est incarné par Jean-Pierre Caillot, qui est au cœur de toutes les polémiques autour de la Ligue, de la gestion de la Ligue. Et quelque part, ce qui s'est passé à Reims, qui a quand même vendu deux de ses joueurs majeurs cet hiver, avec Agbadou et Mounetsi, en Angleterre, du côté de Wolverhampton, ça les a affaiblis. Dans une saison qui était capitale pour la survie. Donc c'est un dommage collatéral de la gestion de son président vis-à-vis de la Ligue et à l'intérieur de la Ligue des droits de télé. Donc à un moment donné, on paye. Il y a un karma qui est comme ça. Montpellier, évidemment, avec...
qui descend aussi
président
avec
Nicolas,
un président
qui s'était un peu moqué des abonnés de la chaîne diffuseur en disant « mais c'est pas grave, un vendredi... »
Qui est également considéré comme un dirigeant un peu responsable.
C'est le prix d'un resto, voilà, donc c'est rien, bah oui. Mais voilà, à un moment donné, on le paye, ça. Et Reims l'a payé, dommage collatéral de cette gestion des droits télé.
Descente assurée, encore un peu plus bas pour un autre ancien finaliste de la Ligue des Champions. Car oui, Reims a été finaliste de la Ligue des Champions, deux fois même. Là, je parle de Saint-Etienne, défaite 3-2 contre Toulouse pour Louis Mouton et Sévère.
C'est triste d'en arriver là. On avait tous espoir, on y a tous cru. Je pense pas qu'il y en ait un dans le vestiaire qui est lâché. On s'est donné le maximum. Maintenant, voilà, à ce niveau-là, c'est des détails qui font que ça bascule dans notre faveur ou pas. On prend 3 buts, quand on doit mettre 4 buts pour gagner un match, c'est compliqué. On est professionnels, il n'y a que des compétiteurs dans ce championnat. Et dans le monde du foot, c'est tellement dur d'en arriver là. Il fallait être meilleur. Et il fallait être meilleur surtout sur les 33 matchs qu'il y avait avant. Voilà.
Le joueur stéphanois Louis Mouton, ça vous fait mal, Eric Rabessandratana, Saint-Etienne qui était remonté l'été dernier et qui redescend.
Après, faut quand même être logique sur la performance et l'irrégularité des résultats de Saint-Etienne cette saison. Il y a eu des gros scores en plus par moment.
Des
grosses valises. Et puis je m'attendais pas à ce que Toulouse soit aussi bon. Sur ce dernier match, parce que c'est jamais facile de jouer un dernier match comme ça, et à l'extérieur où tu sais que t'es engagé dans t'as une certaine responsabilité d'éthique et franchement chapeau à Toulouse, parce que je m'attendais vraiment à ce que Saint-Etienne fasse le job sur leur terrain pour le dernier match. Après, je savais pas ce que ça allait donner, mais je pensais vraiment que Saint-Etienne allait gagner et que eux menaient déjà 2-0 au bout de je sais plus combien, je crois que c'est 20 minutes ou 25 minutes cette équipe de Toulouse. Après, Saint-Etienne est revenu, mais il y a eu un scénario quand même plutôt bien maîtrisé par Toulouse.
Une autre image sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête, moins d'enjeux sportifs, mais un enjeu émotionnel et symbolique, ça s'est passé du côté du stade Vélodrome.
Ah, il a les yeux qui brillent.
Waouh, c'est génial ce que fait Habib.
Et merci Habib, ouais, merci.
Ah, il lui dit merci.
On a lu sur ses lèvres, merci. Le Vélodrome est debout pour accueillir Seb Mandanda.
C'est toujours un moment particulier de revenir ici, ça l'a toujours été. Aujourd'hui encore plus, entre ce que j'ai pu vivre à l'échauffement et surtout en fin de match. C'est toutes ces belles années passées ici, tous ces bons moments passés ici qui ont ressurgi, en plus avec la vidéo qui a tourné, donc c'était un moment magique.
J'avais demandé à Steph s'il souhaitait jouer. Steph m'a dit que comme il n'envisageait pas d'arrêter, il ne voulait pas vivre de jubilé. Au fil du match, je l'ai regardé 2-3 fois. Il était dans une logique de ne pas vouloir rentrer. Et puis je pense qu'à un moment donné, il a vu ce stade. Il s'est peut-être remémoré ces souvenirs-là. Et je pense qu'on l'a aussi un petit peu poussé. Ses coéquipiers l'ont poussé à vivre ce moment-là. Aujourd'hui, j'entraîne pour entraîner des joueurs comme lui. Vivre ça à ses côtés et de contribuer un petit peu à ça. Et d'être son entraîneur, c'est un véritable privilège.
Ce sera l'un des grands moments de cette soirée également.
L'entrée en jeu de Steve Mandanda sous le maillot de Rennes au stade Vélodrome. Et c'est évidemment en tant que gardien de Marseille qu'on se souvient et que les supporters se sont souvenus de Steve Mandanda. Je crois un record de matchs disputés en tant que joueur à l'OM, un titre de champion en 2010.
Je l'ai vu arriver
en 2007.
À l'OM.
Et il est parti il y a quelques saisons. Il y avait eu un passage assez raté en Angleterre,
mais
d'une saison à Crystal Palace. Oui. Justement, Steve Mandanda, remplaçant à Rennes.
Elle phénoménal d'ailleurs.
Et lancé donc par l'entraîneur rennais, qui lui a fait un petit peu ce cadeau et qu'on a entendu Habib Bey, évidemment notre ami sénégalais.
On peut remercier Habib, oui, absolument.
Qui avait été le capitaine de Steve Mandanda du côté de l'OM. Donc la boucle est
très vite,
est bouclée.
Très rapidement. C'est vrai que, pour déjà, super geste de Habib Bey, pour avoir fait ça, parce qu'il faut y penser, des fois dans le feu de l'action, on peut. Bon, il avait dû y réfléchir avant.
Moi, je pensais qu'il allait faire rentrer à la mi-temps.
Peut-être.
Il
n'y
avait aucun enjeu des deux côtés, en fait.
Mandanda ne voulait même pas jouer, ne voulait même pas entendre parler parce qu'il ne veut pas arrêter sa carrière. Donc pour lui, il ne fallait pas trop rentrer là-dedans. Il a craqué un petit peu.
Mais de toute façon, il fallait le faire. Qu'il joue de 45 minutes, le but, même il aurait joué 45 minutes, c'était symbolique,
bien, ouais.
C'était un moment, avoir l'ovation qu'il méritait du Stade Vélodrome. Il faut se rendre compte de la qualité qu'il avait quand il était à Marseille, moi je me souviens bien. Il était venu comme logiquement numéro 1, mais Carrasco à l'époque était bon, donc il était resté numéro 1. Lui était venu, il était
oui,
deuxième
même été
gardien.
Qui voit justement Habib Bey partir de l'OM.
Voilà, c'est pour ça qu'ils sont
pas... Ils sont à peine croisés, mais...
Pas tellement en tout cas, je
ne
me souviens pas ce souvenir-là.
Habib Bey était bien placé pour mesurer ce que représente un Steve Mandanda pour les Marseillais.
Exactement. Et après, Carrasco s'est blessé. Enfin, la différence de niveau était patente entre les deux. Et toujours est-il qu'à ce moment-là, il a pris cette place. Et n'oublions pas non plus que Mandanda était le premier gardien de l'équipe de France, de l'ère, entre guillemets, lui et Loris. Simplement, il n'a pas réussi à s'imposer de la même manière en équipe de France qu'à Marseille, et c'est Loris qui a pris sa place en équipe de France. Mais ce qui est une carrière magnifique, surtout à l'OM. Évidemment.
Et capitaine du dernier OM champion de France en 2010, Steve Mandanda également champion du monde avec les Bleus en 2018, il me semble qu'il était là.
Oui,
il rate l'Euro à domicile en 2016. L'une des images de la saison, ça, cette ovation, Eric Rabessa.
Ouais, franchement, c'était pour ce qu'il a représenté pour l'OM, c'était important de le faire. Alors peut-être que lui, il pense. Moi, je pense pas qu'il va continuer à jouer parce qu'à 40 ans, je vois pas qui va lui proposer un challenge.
Il veut encore. Hein.
Bah, je sais qu'il veut, mais bon, quand tu veux, mais
tu peux.
Ça se passe
mais
pas.
Mais tu peux moins.
À 40 ans, franchement, j'ai du mal parce que. Les Émirats, j'y crois pas. Je veux pas le challenge que tu peux avoir.
En tout cas, on imagine que pour un joueur, une telle émotion, un tel.
Non, c'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'était bien. De toute façon, on l'a bien senti. Il est resté sur le terrain quand même assez longtemps après le match.
Il y est encore,
le match.
Et pourtant, c'est pas le plus expansif. C'est pas le plus expansif, Steve Mandanda. Voilà, et on peut saluer le geste de son entraîneur, Habib Bey, qui est également l'ami de Radio Foot. Merci Bruno Constant, avec Rabé Sandratana, Hervé Penaud, Laurent Salerno.
Merci,
demain le retour de la vraie Annie. On attend une excellente soirée à l'écoute de Radio Foot.